Donc, bienvenue à tous au 309e épisode du podcast Hypercroissance. Et oui, 309 épisodes qu'on a sortis jusqu'à maintenant. Toujours un chiffre qui, je le répète, m'impressionne semaine après semaine. Mais aujourd'hui, on veut pas parler du nombre d'épisodes qu'on a fait, mais on veut davantage parler de l'entretien qu'on va avoir avec Louis Brun. Louis Brun qui est président de l'entreprise Sulum. Vous allez voir, c'est une organisation et c'est une discussion également qui est encore orienté sur, bien entendu, l'hypercroissance, mais également le changement qu'une entreprise peut faire par rapport à la planète, par rapport à des industries qu'on pensait qui étaient impossibles à modifier et à changer à travers les années. Littéralement, c'est là que Sulum est venu s'installer. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le parcours de Louis Brun, un parcours qu'on va pouvoir décortiquer pendant environ une heure ensemble aujourd'hui, vous allez vous apercevoir que c'est ce qu'on appelle un entrepreneur en série. Louis n'est pas à sa première entreprise avec Sulum. Au contraire, il en avait déjà dirigé et présidé trois autres dans le passé. Il a été capable même de faire des sorties avec des très, très gros joueurs américains. Il sait de quoi il parle quand il parle de bâtir une organisation technologique, changer le monde, ultimement même revendre l'entreprise. Bref, c'est quelque chose qu'il connaît. Et ce qui est très intéressant, c'est, et vous allez le voir dans l'entretien, ultimement, Louis était à la fin d'un projet et il a rencontré par hasard trois jeunes qui étaient en train de développer une solution dans le domaine de l'éclairage. François Roy Moisan, Gabriel Duprat et Jacques Poirier, qui sont maintenant ses associés, il les rencontre dans une université à Montréal, je pense que c'était l'ETS, et ils discutent ensemble, ils se rendent compte qu'il peut y avoir une chimie, une synergie assez intéressante entre les deux parties, entre les trois cofondateurs et bien entendu Louis. Les gars ont une solution, mais il manque peut-être quelqu'un qui peut diriger et présider une entreprise pour l'amener à un autre niveau, et c'est là que Louis s'est installé. Et tranquillement, on est capable de voir qu'ils bâtissent l'entreprise, bâtissent la solution, bâtissent l'infrastructure, et à un certain moment, au courant des années 2020-2021, il y a un coup de circuit qui se déroule. Ils ont un coup de circuit qui se déroule. Ils sont capables de faire quelque chose que personne dans leur catégorie avait été capable de faire avant. Et ça met Sulum sur la map. Et tranquillement, par la suite, ils se sont mis à gagner de plus en plus de contrats, être connus, lever des sommes plus importantes au niveau du financement pour accélérer leur croissance. Un entretien des plus fascinants, encore une fois. J'espère que vous allez aimer notre discussion que Louis et moi, on a eue pendant à peu près une heure ensemble. Et comme je vous le demande à chaque semaine, si vous pouvez vous abonner, partager le podcast également avec vos collègues dans le monde des affaires, ce serait excessivement apprécié. C'est le petit cadeau que vous pourriez me faire avant l'entretien du jour. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Tu es président et cofondateur de l'entreprise Sulum Technologies, une organisation spécialisée dans l'éclairage LED. Lancée en 2015, l'entreprise a à ce jour levé plus de 40 millions de dollars canadiens afin de révolutionner sa catégorie. Vous éclairez également à ce jour plus de 100 acres partout dans le monde. Louis Brun, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine, c'est un plaisir d'être là.
Et Louis, ton entreprise est spécialisée dans le domaine des solutions d'éclairage, spécifiquement pour les serres. Est-ce que c'est possible pour toi de bien expliquer, peut-être même de résumer à notre audience, qu'est-ce que votre entreprise fait au quotidien?
Alors, Sulum a développé une solution d'éclairage intelligent, Odell. Donc oui, on est Odell, mais l'élément important, c'est que le système est intelligent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'éclairage, lui, peut s'adapter au courant d'une journée, au courant des jours, au courant des semaines, des saisons, afin d'ajuster la lumière en tant que telle, en termes d'intensité, mais surtout en termes de mélange spectral. Hein, la lumière, c'est la mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, donc, c'est ça. Donc, notre technologie intelligente, qu'est-ce qu'elle a? Elle a été optimisée pour l'éclairage dans les serres. Donc, qui permet d'optimiser le flux photonique, hein, parce que les plantes, eux, c'est des photons qui perçoivent, ils n'ont pas de la lumière. Et puis, d'optimiser ce flux photonique-là de façon à ce qu'il augmente la productivité en serre de la façon la plus éco-énergétique possible.
Et on va avoir le temps d'en parler en profondeur aujourd'hui de Sulum Technologies, mais j'aimerais recommencer peut-être un petit peu plus à la base, Louis, parce que il y a ton parcours et il y a Sulum, deux sujets qui sont extrêmement fascinants à regarder ensemble aujourd'hui. On va commencer avec ton parcours. Donc, tu pourrais être ce qu'on considère un entrepreneur à série. Sulum, c'est loin d'être ta première start-up. Tu as cofondé et présidé trois entreprises avant de t'intégrer à Sulum et je les nomme Lipso, Neuralytic System et Universel. Peut-être certaines d'entre elles ont été plus importantes que d'autres, on y reviendra. Mais j'aimerais peut-être que tu nous ramènes au début des années 2000 et nous parler un petit peu du lancement de ta première organisation, Lipso, si je me trompe pas, et nous dire c'est quoi qui t'a poussé à te lancer et à faire surtout le saut en affaires? Parce que j'ai vu qu'avant ça, tu avais travaillé dans des entreprises.
Oui. En fait, Lixo, c'est ma deuxième entreprise.
Ah, il y en avait une autre avant.
Okay. Mais Universel est venu avant Lixo. Alors, si tu veux venir à la genèse de l'entrepreneurship, c'est à la fin des années 90. Moi, je déménage à Montréal. Et puis, j'ai déjà une jeune famille. Le contexte était, je vois l'effervescence des nouveaux réseaux de téléphonie mobile à l'époque. Hein. Il y avait Fido, il y avait ClearNet, il y avait tous ces joueurs-là avec des grandes promesses d'innovation. Puis moi, j'ai été interpellé par ça. Je me suis dit, wow, ça va être incroyable tout ce qu'on va pouvoir faire avec des téléphones. Donc, à la fin des années 90, j'ai lancé une première entreprise. Je me suis mis à développer vraiment des applications très avancées. Mais Universel, il a fallu que je mette mes idées à un moment donné en pause parce que je dirais que mon niveau d'innovation était un peu trop avancé par rapport au marché. 98, je travaillais déjà avec des compagnies en Californie et en Finlande, puis je développais des plateformes, des applications d'information géocontextuelle sur les téléphones. Alors, toi et moi, on sait bien que ce type d'application-là a vraiment connu son émergence en 2008 quand le iPhone est... Donc, j'ai mis ces choses-là, puis c'est là, par contre, où au début des années 2000, après avoir fait un passage de 2 ans chez Ericsson, j'ai vu qu'il y avait un contexte économique qui changeait, et puis c'est là où j'ai décidé de partir Lixo. Après 2 ans chez Ericsson, j'ai connu énormément de succès à lancer des nouvelles lignes de produits. Là, c'est là où j'ai vu que mon acuité à bien comprendre les opportunités de marché, puis comment technologiquement on peut les saisir, puis quand le timing est là, c'est là qu'on a une combinaison gagnante. Alors, je quitte Ericsson pour partir Lixo. Et puis, Lixo, qu'est-ce que ça faisait? C'était une plateforme de messagerie. Donc, en termes de complexité technologique, beaucoup plus simple qu'est-ce que Universel a fait. Mais en termes d'opportunités, ben, le marché était prêt à recevoir ce niveau d'innovation-là. Donc, Lixo a rapidement eu du succès avec les premières plateformes de messagerie qui faisaient le pont entre l'Internet et les réseaux mobiles, qui a permis le vote par SMS, les alertes, toutes ces choses-là.
Et parle-moi un petit peu de Lixo, comment s'est déroulé le parcours de l'organisation? Quel était ton rôle essentiellement dans l'entreprise? Tu pilotais le développement? Tu pilotais le produit?
Donc, j'étais vraiment en charge au niveau là, de tout ce qui était beaucoup plus au niveau positionnement du produit, développement de la plateforme, développement technologique. Progressivement, on pénètre le marché, on réussit à faire des projets à succès. Et puis là, ça m'a permis d'amener l'entreprise jusqu'à un certain niveau avec un partenaire de l'époque. Vers 2003, il y a eu une opportunité où l'entreprise souhaitait avoir une direction beaucoup plus médiatique, donc devenir beaucoup plus un média qu'une entreprise technologique. Moi, je suis plus quelqu'un de technologique. Là, ben, j'ai eu une opportunité, moi, de à ce moment-là, d'avoir ma première sortie, comme on appelle dans le temps.
Il y en a quelques-unes.
Alors, j'ai saisi l'opportunité et puis c'est comme ça qu'après ça, j'ai poursuivi mon chemin encore dans le milieu technologique.
Neuralytics, ça a été ton chemin que tu as suivi quelques années après. 2006, plus précisément, je pense que tu as lancé l'organisation. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Neuralytics System, une entreprise qui trouvait son expertise dans l'intelligence de données, encore une fois, dans le monde des appareils mobiles. Tu me corrigeras si je me trompe. Qu'est-ce qui t'a poussé à retourner un petit peu là-dedans et sentir qu'ici, il y avait peut-être une opportunité encore plus importante?
Alors, quand je suis sorti de Lixo, j'ai pris une pause de l'environnement de télécommunications mobiles. Je suis resté dans le domaine des startups. Je suis plutôt allé travailler à l'étranger pour justement plus développer cet aspect-là de mon expertise. Donc, j'avais basé en Europe, à Paris. J'ai aidé une entreprise logicielle de Montréal à justement faire pénétrer son produit sur le marché européen et du Moyen-Orient. Alors, à travers ça, je suis toujours resté en contact avec... au niveau de l'entrepreneurship, on a un réseau où on a d'autres entrepreneurs. Donc, j'avais plusieurs échanges avec un bon ami à moi. De fil en aiguille, tous les deux, on devenait un peu... À la recherche d'un nouveau projet en 2006, au moment où je suis revenu à Montréal après quelques années en Europe. Et qu'est-ce qu'on a vu ensemble en 2006, c'est que bientôt, il y allait avoir l'émergence de l'Internet sur les téléphones mobiles. Puis là, on s'est dit, bon, les opérateurs bientôt vont faire face à un nouveau défi qu'ils connaissent pas. Ils ont eu énormément de succès à déployer des réseaux de téléphonie mobile, à faire l'architecture de leur réseau basé sur des paramètres qui sont la voix, qui sont basés sur des architectures de réseaux de signalisation. Là, quand l'Internet va devenir mobile, c'est tout un trafic absolument différent qui va leur créer énormément de défis. Alors, la vision était ça, c'est sur Neuralytic, c'était de mettre en place une plateforme qui allait pouvoir analyser le trafic data sur les réseaux mobiles, puis permettre à l'opérateur de comprendre qu'est-ce qui se passe sur son réseau afin d'améliorer la qualité de ses opérations, d'améliorer son déploiement, d'améliorer la qualité du service aux clients. Donc, en fait, on est en 2006, puis on a vu avant le temps l'émergence d'une Internet mobile que l'iPhone et les autres appareils allaient créer 2-3 années plus tard.
Et effectivement, vous étiez visionnaire, droit dans le mille. Quelques années plus tard, on le sait, le iPhone sort, par la suite l'émergence des applications, l'émergence par la suite des plateformes sociales qui s'intègrent au mobile et qui prennent une grosse part de marché. On pense au Facebook ou Instagram de ce monde. Les choses vont tellement bien pour vous, vous attirez l'attention de gros joueurs américains. Et là, j'ai peur de massacrer le nom de l'entreprise, je vais faire mon mieux. Mais il y a Guavus qui est installé dans la Silicon Valley, qui, après quelques années, s'intéresse, vous fait une offre d'achat et finalement fait l'acquisition de l'organisation. Peut-être que tu pourrais nous ramener un petit peu à ces années-là, nous dire, premièrement, on parle de quelle année ici, quand tout ça a été fait, comment les démarches également ont commencé de leur côté pour, au final, faire en sorte que vous les intéressiez tellement qu'ils vous déposent une offre d'acquisition.
Si on revient un petit peu avant l'acquisition, donc, Solume, on connaît avec notre plateforme beaucoup de succès puis de traction. D'abord au Canada. Donc, Bell est devenu un client fort pour nous. En termes de nombre d'abonnés, Bell, c'est au Canada, on n'a pas des gros opérateurs. Nos opérateurs vont avoir 5, 6, 8 millions d'abonnés. Donc, en termes de géographie, c'est immense. Donc, on réalisait cela, une percée technologique qui était importante. Et puis, je dirais que on a eu beaucoup de traction sur le marché de l'Asie. Donc, les opérateurs là-bas qui étaient en forte croissance, qui investissaient beaucoup, ont vu plus qu'ailleurs les bénéfices d'utiliser la plateforme de Neuralytic. Alors là, on est rendu 2011, on a levé 20 millions de dollars jusqu'à maintenant. On commence à accélérer la commercialisation. Neuralytic est bien connu dans l'industrie. Il y a quelques compétiteurs sur le marché, mais c'est très niché. Ce qu'on fait, peu de gens sont capables de le faire. Puis, c'est dans ce contexte-là où on est approché par Guavus. Donc, il y a des membres de l'exécutif de Guavus. Vraiment, on a des relations communes. Et puis, à travers ces relations communes-là, on est mis en contact avec les dirigeants de Guavus. Puis, je dirais que dès la première rencontre, on voit une synergie. Guavus est une entreprise qui fait des choses similaires à Solume.
À Neuralytic.
Petit lapsus ici, ouais. Alors, les deux, on est des plateformes d'analytique qu'on appellerait aujourd'hui d'AI sur les réseaux de télécommunications. Mais Guavus le fait sur les réseaux fixes. Solume le fait sur les réseaux sans fil.
Ah, une belle synergie, là.
Guavus le fait du côté architecture, réseau, infrastructure. Solume le fait au niveau trafic, comportement, usage. Et puis, Guavus est très fort sur le marché américain, évidemment. Et puis, Neuralytic est très fort sur les marchés internationaux. Donc, il y a énormément de complémentarité. Puis, un autre élément qui a vraiment beaucoup intéressé Guavus, c'est la qualité des ressources. Guavus sont 200 personnes. Solume, on est 30.
Neuralytic.
Encore une fois.
tu l'as sur le cœur, Solume. C'est parfait.
C'est parfait. Puis, donc, c'est ces éléments-là qui ont vraiment attiré. On était rendu à un moment, on avait levé 20 millions, mais on passait à une autre étape de commercialisation où nos besoins allaient encore augmenter. Et puis, avec nos investisseurs, on avait la possibilité ou de réinjecter des fonds ou de joindre nos forces. C'est ce qu'on a ce qu'on a décidé, c'est que la meilleure approche était de joindre nos forces à Guavus.
Donc, ça s'est fait comme beaucoup d'organisations. Vous étiez peut-être en train, encore une fois, de relever de l'argent. C'est souvent comme ça que ça arrive. On arrive peut-être sur une ronde d'investissement et finalement, ça se transforme en acquisition. Est-ce que c'était quelque chose dans ce style-là qui s'est mis en place?
Oui, oui. Essentiellement, c'est souvent, on était... Bon, il fallait regarder la prochaine phase de croissance. On avait des discussions pour justement avoir des fonds additionnels. Et puis, c'est un peu aussi comme ça, on rencontre plusieurs fonds d'investissement. Tout à coup, un de ces fonds, on était souvent dans la Silicon Valley pour rencontrer des investisseurs là-bas. Là, ben tout à coup, en rencontrant des gens, « Ah, mais ce que vous faites, ça ressemble à Guavus. » Là, tout à coup, on se met à rencontrer les autres investisseurs. Des philosophies se rejoignent. Et puis, c'est là-dessus que la décision s'est prise. Et puis, ça a été une belle aventure. Je ne regrette pas du tout.
Une belle aventure, une belle sortie. Comment Louis Brun se sent en ce moment-là? Est-ce qu'on est en pré-retraite ou on pense déjà à le prochain projet, la prochaine aventure?
Non. La retraite, c'est pas une notion avec laquelle... C'est pas un mot que j'ai vraiment dans la tête. Et puis, quand je suis dans un projet, je suis vraiment engagé dans mes idées, sont toutes là. Je suis pas le genre de personne qui va penser à partir d'autres idées. Donc, à ce moment-là, je suis d'abord dans une première année, il est entendu que j'ai des choses à livrer.
Bien sûr.
C'est une transaction qui est importante. Ce qui est sur la table, c'est je dois être là pour au moins un an pour livrer l'acquisition. Donc, on a des revenus à livrer, des clients à livrer. Mais aussi, un élément important pour Guavus dans leur acquisition de Neuraltix, c'était les employés. Donc, je devais garantir la rétention des employés. Puis la qualité est vraiment là. Peu de temps, un an et demi après la fusion des deux entités, le responsable des finances chez Neuraltix était rendu le responsable des finances de Guavus jusqu'en Californie. Le responsable marketing de Neuraltix était rendu responsable du marketing de Guavus en international. Mon architecte était rendu l'architecte en chef. Je pense que ça, c'est un beau témoignage justement de la qualité des gens qui avaient ici. Alors moi, ma première année, je la livre. Puis, ce qui a été extrêmement intéressant dans l'aventure Guavus, à partir du moment où j'avais livré justement l'acquisition, les opportunités que j'ai eues. Donc, à la fin de la première année, j'ai des discussions avec le conseil d'administration. La croissance va bien chez Guavus, mais on doit restructurer les opérations internationales. On dit, Louis, ça te tente de prendre ça en charge. Donc, ma deuxième année, ça a été justement ça. Ça a été de prendre en charge toutes les opérations de Guavus, vente et opérations à l'extérieur des États-Unis.
Mais tu n'avais pas à le faire. On s'entend que c'est une offre qui t'ont fait. Je veux dire, ton earn-out, entre parenthèses, était sensiblement terminé à ce moment-là, c'est ça?
Exactement. Donc, moi, j'avais signé pour un an, disons-le comme ça. Mais à la fin de cette année-là, on m'a offert comme ce défi-là. Alors, c'est quelque chose, je voyais exactement qu'est-ce que j'avais à faire. Le défi m'enchantait. Ça a été une période fantastique où je voyageais de façon effrénée. alors c'est sûr que quand on fait ça, faut vraiment être prêt, faut être engagé. Si on est dans une famille, dans un couple, faut que ce soit une décision ensemble parce que c'est hors norme. Oui. Je donne un exemple juste pour que les gens puissent un peu. Cette année-là, j'étais à l'extérieur, donc dans des hôtels ou en avion pendant au-dessus de 180 jours. C'est une journée sur deux. Je me rappelle une fois, je suis à la maison avec la famille, avec ma conjointe, les enfants. Mais après le souper, moi, je quitte, je pars. Puis ils pensaient que je sortais, j'allais simplement pour... j'avais une petite sortie ce soir-là, mais je m'en allais prendre l'avion, je partais pour Paris. J'avais des rencontres toute la journée, puis le lendemain, je suis revenu pour souper.
Oh, wow! C'est intense.
Alors là, tu sais, j'arrive bizarre. Comment ça a été ta journée bizarre? Ben, j'étais à Paris. Alors, il y avait absolument des rencontres qui devaient avoir lieu. C'était en face à face. Mais Alors, tous ces éléments-là, des histoires à la OpenAI, j'en ai plusieurs à raconter.
Avec du recul, crois-tu que la majeure partie de ces rencontres-là aujourd'hui se ferait en rencontre virtuelle ou encore une grande partie de ces rencontres-là doivent se faire en face-à-face?
Je pense qu'il y en a encore une bonne partie qui doivent se faire en face-à-face. Quand tu as une relation établie, quand tu fais du suivi de dossier, peut-être que tu peux avoir une discipline puis une routine où les rencontres se font en ligne. Moi, je suis souvent au niveau de développement des affaires, en train de développer des nouvelles relations, en train de tisser des nouveaux liens, en train de travailler des nouvelles opportunités. Ces choses-là, quand tu veux les faire avancer, à un moment donné, le contact doit se faire. Les discussions doivent avoir lieu en personne. Tu dois sentir avec les gens avec qui tu parles. Quand même, je repense à ça. Puis en plus, quand il y a des cultures différentes, je veux dire, je partais en France, je partais en Angleterre, je partais à Singapour, je partais à Hong Kong, je partais à Dubaï. C'est tous des gens, des cultures différentes, des choses différentes. Je pense que peut-être ça avait diminué de 20-30% mon déplacement, mais pas plus que ça.
Bon. Et là, tu gères ce département-là. Tu le fais pendant quelques temps. Et dis-moi, c'est à quel moment que ça te frappe de dire, tu sais quoi, l'entrepreneuriat, ça me manque.
C'est en fait après 3 ans, j'ai livré Neuralytics à Guavus. Ils m'ont donné des opportunités au niveau du développement de la gestion internationale. Ensuite de ça, j'ai pris la direction du développement corporatif de l'entreprise. Je te dirais que quand ces 3 sujets-là ont été terminés, c'était comme j'étais allé au bout de la question, puis c'était temps pour moi de passer à autre chose. Donc, janvier 2016, je quitte Guavus, qui se fait de façon très cordiale, puis je prends une pause. Juste à ce moment-là... 2016. Donc, la transaction avec Guavus s'est faite en décembre 2012. Donc, je suis resté là jusqu'en janvier 2016.
Intéressant. OK. Et là, tu pars de l'entreprise, tu as livré tes mandats. Et là, il y a un truc assez fascinant qui se déroule. On en parlait, toi et moi, dans une rencontre précédente. François Roy-Moisan, Gabriel Dupré et Jacques Poirier, ce sont 3 personnes que tu rencontres à un événement. 3 jeunes qui avaient pensé une solution qui finalement deviendra Sulum. Mais il leur manque, et peut-être tu pourras l'expliquer, je pense que tu vas pouvoir l'expliquer bien mieux que moi, peut-être quelqu'un pour gérer la business, l'amener à un endroit où est-ce que ça peut être commercialement viable. Parle-nous un petit peu de cette rencontre-là et nous dire finalement qu'est-ce que fait que tu as pris la décision de te joindre à Sulum.
Ben, alors tu vois, première partie 2016, je prends une pause d'entrepreneurship, je fais une réflexion aussi, qu'est-ce que je fais? Et puis, je me rappelle, c'est même dans le temps des fêtes, là, genre décembre 2015, janvier 2016, avec ma conjointe. C'est elle qui me fait réaliser, voyons, c'est beau, c'est l'opportunité ici, puis l'opportunité là. Mais c'est pas toi, là. Tu vas t'ennuyer. L'entrepreneurship, c'est toi, innover. Puis toutes les entreprises que j'ai démarrées, je les ai toujours démarrées de rien, du début, de la genèse. Puis là, c'est là où... J'ai fait comme cette réalisation-là. Puis je dis, c'est vrai. Je vais repartir autre chose. Mais là, quoi? Alors, pendant toute cette période-là, l'hiver 2016, où je me donne du temps pour réfléchir, c'est là où je me dis, ma force, c'est quoi la force? Ma force, c'est, je suis un ingénieur de formation, j'ai des études en finance, je suis très confortable avec tout l'environnement légal. Fait que c'est cette combinaison-là qui fait de moi un entrepreneur en technologie. Puis, avec tout ça, qu'est-ce qui me différencie? C'est que je comprends la technologie, mais ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut pour l'amener au marché? Qu'est-ce qu'il faut pour transformer une technologie, une compagnie qui va ensuite de ça représenter un grand potentiel de croissance? Et puis, ça, c'était ma force. Je dis, mais je m'en vais dans quel domaine? Alors, je voulais me trouver un projet. Je voulais me trouver des partenaires qui, eux, avaient une acuité, une facilité technologique. Puis qu'ensemble, on allait adresser les problèmes que là notre société commence à rencontrer. C'était important pour moi d'avoir cette fois-ci un projet qui allait avoir un impact sur la société de par son innovation. Alors la rencontre, elle s'est passée comment? C'est à en étant B, je visite le Santec, qui est un incubateur d'entreprise affilié à l'ETS. Puis, je rencontre plusieurs petites compagnies qui font plein de choses intéressantes. Et puis, c'est là où j'arrive face à face avec François Gabriel et qui me disent « Ah ben, nous, oui, on a inventé le soleil. » Ah, ben, donc, regarde, c'est beau. Puis, ben, parlant du soleil, moi, je vais retourner dehors parce que ouais. Là, on est dans le sous-sol puis je suis un peu tanné des néons. Fait que là, François insiste, il dit « Non, viens voir. » Alors là, il ouvre la porte de leur bureau, à l'époque, c'était un genre de petit laboratoire. Puis là, c'est là où j'ai comme une réaction un peu bizarre. Puis je suis dans un sol, je sais que je suis pas dehors. Mais moi, il ouvre la porte, j'ai l'impression que je suis dehors. Il y a comme la luminosité, elle a quelque chose de rassurant. Puis là, ben, quand on rentre, là, il y a tout l'équipement de laboratoire, t'as tout ce que tu peux imaginer d'équipement geek. Mais il y avait des tomates puis des fraises qui poussaient. Oui, les deux, ils me regardent avec un grand sourire. Ben, on fait le soleil, ça fait pousser des plantes. Alors, je te dirais que toute cette candeur-là, cette fraîcheur-là, et aussi cette capacité de pouvoir créer des choses au niveau technologique sans aucune inhibition, c'est ce qui m'a beaucoup impressionné du côté de Jacques-François Gabriel. Et de l'autre côté, eux, je cherchais justement un partenaire, quelqu'un qui allait plonger avec eux dans l'aventure puis qui allait être capable de transformer leur technologie en une compagnie. Puis donc, c'est comme ça, juin 2016, que je me joins à l'aventure solo.
Et ça, à quoi ressemblait un petit peu l'organisation? Si on peut appeler ça une organisation à ce moment-là ou davantage un projet, est-ce que ça l'avait déjà, selon toi, la force de devenir une grande entreprise ou c'était davantage qu'on pourrait considérer une très bonne idée mais sans preuve de concept concernant sa commercialisation?
Il y avait plein de bonnes idées. Il commençait à avoir des revenus.
Quand même. OK.
Alors, ça manquait de direction. La créativité de mes associés, de François et Gabriel, c'était, ben, en fait, rien n'était impossible. Donc, toutes les opportunités étaient bonnes. Alors, ça a permis de valider la technologie, ce qui est bien. Par contre, moi, ce que je leur ai dit, c'est que si je m'associe avec vous, c'est que moi, je vois là-dedans un potentiel, un grand potentiel. Les projets qui m'intéressent, c'est que c'est des projets où on peut développer une technologie qui va transformer une industrie. Puis c'est là où, je vais donner des exemples. Et Netflix a transformé comment on consomme aujourd'hui les médias. Alors, maintenant, il y a plein d'autres plateformes de streaming. Alors, j'avais dit à François Gabriel, il dit, votre technologie a énormément de potentiel. Oui, vous faites des revenus, mais il faut qu'on revienne un petit peu, qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va, puis se donner à ce moment-là un plan de match. Et puis, si ça vous intéresse, embarquez avec moi. Ben, c'est ambitieux. On va devoir se trouver des partenaires financiers. On va devoir avoir une histoire et une vision claire. Pour nous permettre de justement avancer, lever les fonds qu'on peut, puis bâtir une équipe autour d'eux.
Est-ce que ta vision de tout ça était une vision qui rapidement était partagée de leur côté ou ça les rendait peut-être inconfortables ou c'est des choses que eux-mêmes n'avaient pas pensé? Parce que toi, tu viens du jeu de « on veut révolutionner, on doit lever de l'argent ». C'est comme ça qu'on va être capable de changer une industrie. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas nécessairement quelque chose de naturel pour monsieur et madame tout le monde. Comment cette vision-là, ce plan, argumentablement qu'on pourrait appeler très ambitieux, a résonné à leurs oreilles?
Ça a très bien résonné. Je dirais ça les a rejoints immédiatement. Puis c'est pour ça aussi que ça a fonctionné. Je me rappelle à cette époque-là, François venait de faire un pitch à des investisseurs et tout ça. Puis il y avait sa phrase choc à la fin de sa présentation et où tu sais Solune encore mieux que le soleil. Donc on va dire que sa solution d'éclairage qui reproduit le soleil, ben c'est encore mieux que le soleil parce que tu peux avoir le soleil quand tu veux. Alors il y avait déjà quelque part cette ambition là et puis là moi j'arrivais avec à ce moment-là je vois le plan pour se rendre là. Et c'est ça qu'ils recherchaient. Je pense qu'il y avait, dans l'accompagnement qu'il y avait à ce moment-là avec le Santec, c'est un accompagnement qui les avait amenés aussi à réaliser leurs forces mais leur faiblesse était justement d'avoir quelqu'un qui allait pouvoir harnacher la capacité, l'opportunité de leur technologie et d'en faire un vrai projet d'entreprise.
Fascinant. Et bon, j'aimerais qu'on parle peut-être un petit peu de la technologie de Tulum, parce que j'ai fait quelques recherches là-dessus. Et bon, je me suis rendu compte que c'est une industrie qui n'avait pas eu tellement d'innovation pendant un bon bout de temps. Également, on peut voir que les solutions d'éclairage, ça demande beaucoup d'électricité, ça pollue très rapidement, puis la plupart d'entre elles ont des durées de vie assez courtes. Donc, clairement, ici, on arrive, et tu me pardonneras l'anglicisme, ici, face à un business case, qu'au-delà d'avoir peut-être un potentiel d'être commercialisé, il y a vraiment un potentiel de faire un changement important, socio-responsable quasiment, là.
Absolument. Alors, ce qui arrive, c'est que quand je me joins à Tulum, les premiers clients, on a des clients dans le domaine de l'art, et puis on a un projet pilote avec une salle verticale. Et puis, ce qu'on fait, c'est la première étape qu'on a fait, c'est bon, on va prendre du recul, puis on va vraiment analyser les différents vecteurs. Puis c'est là où, ça c'est un message que je partage souvent avec des entrepreneurs en technologie, c'est-à-dire on peut régler tous les problèmes. Les opportunités sont toutes là, mais à un moment donné, il faut savoir choisir laquelle où on va concentrer d'abord nos efforts. Et puis, on a exploré tout le domaine de l'art. On avait fait des projets pour justement éclairer des œuvres d'art, parce que là, on est capable de les mettre en valeur sans les détériorer. Marché très intéressant, mais peut-être la grosseur du marché, la valeur qu'on apporte par rapport au coût de la technologie est peut-être pas l'équation de ce fait, peut-être pas. En fait, des projets au niveau du bien-être animal, des choses très intéressantes, des résultats concluants, mais c'est du côté des plans. Je dirais que le projet qu'on faisait dans une sphère verticale, justement, c'est là où je dirais que le business, les bénéfices, le business case était le plus probant. Donc, alors, c'est là où on a décidé de concentrer nos efforts de façon très ciblée sur les plantes.
Et c'est beau la technologie, mais après, il faut la faire connaître. Et je regarde un petit peu, on en a parlé également ensemble. Vous avez fait un très gros lancement en 2019-2020 de votre solution. Et très rapidement, tu me disais que l'industrie n'en revenait pas. Un des plus gros joueurs mondiaux est venu te voir. Tu as littéralement posé des questions. Comment vous avez fait? Peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de ce lancement-là, nous dire également les répercussions qu'il y a eues et nous dire aussi, est-ce que ça vous a surpris d'avoir cette réponse-là?
Alors, toi, 2018-2019, après plusieurs projets pilotes, on est concentré sur l'agriculture. Puis, on a fait des projets avec des firmes en biotechnologie, dans des chambres de croissance, avec des firmes verticales. Puis, parallèlement, en analysant le marché, on constate que, aujourd'hui, l'industrie de la serre, puis comme tu le faisais remarquer plus tôt, est encore très traditionnelle au niveau de l'éclairage. Hein, on est en 2019, puis la majorité des serres sont encore éclairées avec des ampoules HPS qui génèrent beaucoup de lumière, mais qui consomment beaucoup d'énergie, dégagent de la chaleur. Ça prend du mercure quand tu fabriques ces luminaires-là, c'est pas vraiment éco-responsable. Alors, c'est là où on voit l'opportunité pour Tulum de se positionner de façon très précise. Nous, on va faire de l'éclairage complémentaire dans les serres. On va avoir un système d'éclairage qui est intelligent. Donc, alors que la révolution LED est arrivée un peu partout, elle est dans nos maisons, les voitures, il y a du LED vraiment partout. L'industrie agricole a besoin d'avoir cette évolution-là. Et là, on voit l'opportunité de justement pouvoir aller sur ça. Par contre, ben, dans le marché de la serre, c'est des grosses installations. Hein? Si, pour être crédible, qu'on t'écoute, on va te demander c'est combien de temps que tu existes, où tu as déjà déployé, puis c'est quoi la grosseur de tes déploiements. Donc, c'était important. Ça, c'était là en 2019. On a dit, va falloir qu'on fasse un gros déploiement. Genre une grosse preuve de concept. On parle de 2 hectares. Et on va éclairer, puis on va montrer à tout le monde que notre technologie, ça marche. Donc, il fallait faire un gros projet. Puis, ils disent, bon, mais tu sais, dans l'agriculture, dans les serres, on fait pousser des tomates, des poivrons, des concombres, de la laitue, toutes sortes de choses. Alors là, on se rend compte dans nos recherches que dans toutes les plantes qui poussent en serre, c'est le poivron qui, lui, On fait pas pousser du poivron avec l'éclairage. On fait pousser du poivron en serre l'été, mais l'hiver, faire pousser du poivron avec l'éclairage artificiel, ça marche pas. On s'est dit, ben nous, Solume, on recrée la lumière naturelle du soleil, on va être capable de faire pousser des poivrons avec notre système d'éclairage. Donc, on rentre en pleine pandémie, 2020. On a présenté le projet du côté de TDDC, qui est une fondation canadienne pour le développement durable. On a une subvention, puis on part à la recherche d'un producteur qui va avoir la même vision. C'est quelqu'un qui va vouloir relever le défi. Puis c'est là où, à ce moment-là, à l'automne, septembre-octobre 2020, on déploie en Ontario, dans le sud de l'Ontario, à Kingsville, pour être précis, 4 acres de serre avec notre système d'éclairage intelligent. Puis ben nous, on arrive vraiment, on n'est même pas 20 personnes à ce moment-là. Je dirais, on est, pour donner un peu l'image, on est une bande de Boy Scouts en Bermuda, là, tu sais. On n'a jamais déployé 4000 lumières.
Wow,
notre plus gros déploiement, c'était 40 lumières. Ça fonctionnait en local. Là, on avait une plateforme qui fonctionnait avec à travers l'Internet et à travers l'info nuagique et tout. Mais on travaillait avec Gene Ingrata, puis lui, il nous avait dit, si tu me fais la lumière du soleil d'été que j'ai normalement ici au mois de juin, si tu me fais ça au mois de janvier, ben moi, je vais être capable de créer le reste des conditions climatiques qu'on va réussir à faire ensemble des poivrons. Donc, tu sais, c'est une histoire courte où on déploie, il arrive, tu peux imaginer tous les défis qu'on peut avoir avec la pandémie, l'approvisionnement, l'équipement qui a une déchet, une grève au port de Vancouver, les câbles sont pognés là-bas. Mais finalement, mi-octobre, le système d'éclairage se met en marche. Les lumières se mettent à ajuster. Il y a des senseurs qui analysent la lumière naturelle qui rentre, qui font toute la compensation. Puis là, ben, on est accroché aux lèvres de Gene pour savoir ça va-tu fonctionner parce que, et puis ça a fonctionné. Alors, il y a des images fantastiques qui sont sorties de là. Donc, on a, j'ai Jenny qui est ici au marketing qui fait un travail phénoménal, justement, à mettre de l'avant cette technologie-là qu'on a fait. Je veux dire, on est très fiers, mais on n'a pas réalisé encore qu'est-ce qu'on, on a une fierté intrinsèque. Wow, c'est un gros défi technologique. C'est un gros pari de faire pousser des poivrons en hiver. On a réussi, on est fiers de nous. Mais, un moment qui a été assez, qui nous a permis de réaliser de l'ampleur de ce qu'on avait accompli, c'était au mois de juin 2021. Solume, on a un petit coin du pavillon du Québec puis du Canada à un salon qui s'appelle Green Tech. Alors, Green Tech, c'est le gros salon annuel de l'industrie silicone. Hein, ça se passe en Hollande, en Amsterdam. La Hollande, il faut comprendre que c'est la Silicon Valley des technologies en serre, c'est le pays le plus avancé technologiquement. Donc, pour nous, on a une opportunité dans le pavillon, supporté par le pavillon du Canada puis du Québec, d'avoir un petit coin, une petite table. On met nos luminaires là, mais c'est bon, là, on va aller montrer aux gens qu'est-ce qu'on a été capable de faire. Le salon se déroule bien, tu vois qu'il y a des gens qui passent, qu'il y a de la curiosité, mais là, tout à coup, moi aussi, je me promène, je visite, puis je rentre dans les kiosques de d'autres compagnies. Puis là, il y a quelque chose qui m'étonne, tu sais. Je vais me présenter. Je me rappelle encore de la compagnie. C'est un fabricant de serre hollandais. C'est immense. Tu sais, tu vois que les autres, là, c'est déjà dans une grosse compagnie. Ils ont le gros kiosque. Puis, j'arrive pour me présenter. Puis, il me serre la main. Il me dit, salut Louis, félicitations. J'ai dit, attends une minute. C'est parce que je suis pas sûr qu'on s'est déjà vu, Il dit, non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais toi, je te connais. Ce que vous avez fait, c'est phénoménal. Félicitations. Alors là, je dis, mon Dieu, je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, c'est lui qui dit, ben, écoute, c'est ce que vous avez, d'avoir réussi à grande échelle. Vous avez réussi ce que tout le monde essaye de, tout le monde pense va être le futur. Vous avez réussi ce sur quoi plusieurs se sont cassés les dents avant. Alors, c'est exceptionnel. Alors là, mon Dieu, je te dirais que là, j'en ai une grande fierté. Puis, le lendemain, je me retrouve que je suis assis avec le directeur général de la division horticole de Philips. Donc, Philips, c'est une grande compagnie, on la connaît, mais c'est la plus grosse compagnie au niveau de l'éclairage horticole. Et puis, Edwin qui est là, qui me rencontre, puis, je pense que c'est là où toute la... Ça vient un peu rejoindre la philosophie de Solume. Il dit, c'est beau, je suis allé voir votre kiosque, c'est assez impressionnant, qu'est-ce que vous faites? Pose quelques questions, je fais attention à mes réponses, hein. Faut quand même, faut pas tout donner ses secrets. Il dit, comment vous avez réussi? Fait que là, j'ai dit, écoute, Edwin, il dit, Solume, toutes nos présentations commencent par une citation de Albert Einstein. Il dit, regardez la nature et ça va vous permettre de mieux comprendre bien des choses. Puis ça a été un peu à la genèse de Solume où on innove, mais la nature est là depuis des milliers d'années. Puis avant de penser qu'on est capable de tout réinventer, puis c'est ça que je dis à Edwin, il dit, quand on a réussi à déployer le plus grand système d'éclairage intelligent dans une serre, il dit, dans ma compagnie, à ce moment-là, j'ai personne qui avait développé des équipements d'éclairage LED avant. J'ai personne qui avait travaillé en serre avant. J'ai pas d'agronome pour dire, hey, telle lumière, c'est bon pour telle chose. Il dit, mais on a la plateforme qui permet de reproduire la lumière naturelle du soleil, qui permet de l'ajuster. Puis j'ai mis entre les mains un agronome qui, lui, a exploité les capacités du système. Puis ensemble, on a fait ce que les autres avaient pas fait avant. Donc là, ça a été...
Ah, ça devait être un moment assez important. Et parle-nous des répercussions, parce que j'imagine qu'une présentation de la sorte, qu'une étude de cas de la sorte même devient un peu ton porte-étendard pour la business future. Comment ça s'est transformé même en contrat, en développement d'affaires pour l'entreprise? Est-ce que tu serais prêt à dire aujourd'hui que ça a été un petit peu le point de démarrage de Solume de manière accélérée?
Oui, ben définitivement. Tu sais, c'est un point d'inflexion important. Je te dirais, mais tu sais, c'est pas en même temps, faut être lucide. Hein? C'est pas on a réussi quelque chose qui est unique, qui est grandiose. Faut être fier, mais c'est seulement la première étape dans un cheminement qui est plus long. Mais ça nous a donné énormément de crédibilité. Et puis à partir de là, ben ce qui a été important, c'est d'avoir de prendre du recul. Ce qu'on a fait à ce moment-là, à l'été 2020, c'est OK, on est rendu là. Maintenant, reprenons du temps avec mon équipe. Puis tout ça, ça a été maintenant pour les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'on veut? Là, finalement, qu'est-ce qui va faire que bon, mais dans 5 ans, on veut que Solume, ce soit un des leaders mondiaux d'éclairage horticole. On veut avoir redéfini l'éclairage horticole avec notre système d'éclairage dynamique. Il dit qu'est-ce qu'on doit faire si on veut se rendre là. Puis ça nous a permis cette confiance-là qu'on a acquise avec cette réalisation-là unique, nous a permis à ce moment-là de juste pas de transformer notre plan d'affaires, mais de l'ajuster avec une série de décisions puis une stratégie bien établie pour nous permettre justement d'être rendu où on est aujourd'hui, puis d'avoir une vision claire de la croissance qui va faire que Solume, d'ici 2006, va être un joueur dominant de l'éclairage.
Fascinant. Et bon, peut-être on pourrait parler un peu de financement ici, parce qu'on s'entend, c'est des projets importants. C'est pas simplement d'aller chercher des talent, mais c'est également un travail où est-ce que vous devez bâtir de l'infrastructure, y a-t-il du matériel? Comment vous abordez ça aussi? Parce que j'ai vu jusqu'à maintenant, vous avez levé environ 40 millions de dollars canadiens pour aller chercher cette prochaine phase de croissance-là. Est-ce qu'on considère qu'il y a encore beaucoup de capital à aller lever pour vraiment aller au bout de notre vision?
Je te dirais que là, aujourd'hui, ta question, je vais la reprendre un peu par étapes, puis je vais m'en venir là. Ce qui était important, c'est après notre première réalisation, c'est de renforcer notre positionnement. Donc, dans les 2 années qui ont suivi, ça nous a permis de lever. Bon, on avait en 2020, ça nous a permis de lever une ronde de 3 millions. Donc, on avait déjà levé 1 million en 2017, qu'on a géré de façon très, très responsable à faire nos projets pilotes. Donc là, en 2020, la démonstration qu'on fait nous permet de lever à 3 millions. Là, on va chercher un 6 millions de plus parce que la prochaine étape pour nous, c'était de créer une base solide pour l'accélération de la compagnie. Cette base-là solide, c'était l'efficacité opérationnelle. Donc, jusqu'en 2022, on voulait s'assurer que tout notre processus d'approvisionnement, la coût de fabrication de produits, la distribution du produit soit vraiment d'une efficacité telle qu'on ait une solution compétitive dans le marché. Parce que En développement technologique, là, je le disais plus tôt, on peut régler tous les problèmes. Et c'est parce que si tu as un problème à 100$ puis ta solution elle coûte 1000$, là, ben tu vas rester pogné avec ton problème. Solum, on offre la solution d'éclairage qui est la plus sophistiquée, qui va permettre une pérennité future, qui va permettre d'accélérer la souveraineté alimentaire, le développement des économies locales, etc., etc. Mais c'est une solution qu'on s'est assuré à développer pour qu'elle soit économiquement compétitive aussi. Donc, c'est ça qu'on a travaillé de 2020 à 2022. C'est de démontrer que notre technologie n'était pas unidimensionnelle, c'était pas juste le poivron. Donc, pendant ces années-là, ça a été d'aller signer des projets où on démontre. Ben, puis nous, on en était convaincus. Si on regarde de faire pousser des poivrons, on peut faire pousser n'importe quoi. Mais des gens sont comme ça. Il fallait avoir une démonstration tangible. Mais là, aujourd'hui, nos clients font de la tomate, des concombres, de la laitue. On a des clients qui sont dans la fleur, les fraises. On a des clients qui font pousser des agrumes. Toutes ces choses-là. Donc là, tous ces 10 éléments de démonstration sont là. Puis là, ben, en 2022, là, on avait tous les éléments de dire, regarde, on a un gros marché devant nous avec des clients, avec de la démonstration, on a des études des cas, on a du data, capacité manufacturière. Ce qu'on a besoin, c'est de capitaux pour supporter là-dedans. Donc là, en décembre 2022, on a sécurisé un 30 millions avec un fonds de private equity dans le développement durable qui a vu, qui a compris notre vision. C'est ça, c'est important. Ben, c'est si tu veux avoir de l'hypercroissance, si tu veux croître, il faut que tu ailles chercher des partenaires financiers qui sont là, oui, parce qu'ils veulent du rendement pour leur investissement, mais parce qu'ils ont la même vision, qu'ils ont la même passion que toi. Donc, pour revenir à ta question, ce 30 millions-là va permettre à Solum de croître extrêmement rapidement au cours des 4 prochaines années, de se donner la structure financière pour que on puisse se concentrer sur le développement de la compagnie, le développement de la business. On n'avait pas besoin de 30 millions à ce moment-là, mais l'opportunité s'est présentée que j'ai vu là une occasion de pouvoir sécuriser l'assise financière pour que moi puis les autres membres de mon équipe, on puisse travailler à développer la compagnie et qu'on ne soit pas constamment en financement. Donc, c'est un 30 millions qui nous permet d'atteindre la pérennité de la croissance, de la profitabilité pour devenir ce joueur-là dominant dans l'éclairage optical. Est-ce qu'il va y avoir une autre ronde de financement sur l'une? Peut-être, mais ça, on va voir plus en 2025, 2026 où on est rendu. Puis, est-ce que dans notre plan d'affaires, à ce moment-là, nos ambitions passent à un autre niveau, puis à ce moment-là, on va aller lever d'autres fonds? Mais là, je te dirais qu'on a la structure avec les partenaires financiers, l'équité. Puis là, on est en train de structurer de la dette autour de ça pour bien accompagner le flux de trésorerie dans le cycle de développement des affaires, qui fait que Solum est vraiment dans une position extrêmement solide. Puis pour moi, qui est confortable dans le sens où je sens que je peux vraiment me donner à fond sur le succès commercial de l'entreprise.
Wow. Et c'est quoi qui vous attend? Les 12, 24, 36 prochains mois, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vous?
Eh bien, on a vraiment un plan très agressif d'ici 2026 pour les 3 prochaines années pour accroître finalement notre position. Donc, 2026, Solum est devenu le leader de l'éclairage en scène avec au niveau de l'éclairage dynamique. Donc, on prétend pas que l'industrie au complet mondiale va être rendue utiliser de l'éclairage dynamique, mais il va y avoir une tendance lourde vers l'éclairage dynamique et le leader qui va être à la fine pointe de ça, qui va mener la charge, ça va être Solum. On va être reconnu comme étant une plateforme justement facilitatrice qui permet d'accélérer la transformation. Alors, on va avoir un rayonnement international, une position dominante sur le marché américain. Tu parlais au début de l'appel, on a aujourd'hui 100 heures sous éclairage. Tu as 40 000 pieds carrés de l'art. Donc, là, 100 heures, tu fais 100 fois 40 000 pieds carrés. D'ici 2026, on va être rendu au-delà de 500 heures d'éclairage, probablement, avec nos clients, principalement ici en Amérique du Nord, mais avec des percées qui se passent déjà en Europe, puis ailleurs dans. Donc, et on est en train de réfléchir à la prochaine vague. Là, on s'est bien occupé des plans. Est-ce que c'est le temps pour Solum de commencer à adapter sa solution pour le bien-être animal. On a beaucoup d'élevage. que ce soit la production laitière, la production aviaire, la production porcine. Puis, pourquoi pas l'éclairage centré humain. Hein? J'en parle encore en fin de semaine. Il y a plein de situations, je suis avec des amis, il y a plein de situations de contexte où avec un éclairage de qualité, l'humain se sentirait mieux, que ce soit au niveau des écoles, faciliter l'apprentissage avec le bon éclairage au bon moment, que ce soit faciliter ou améliorer la récupération en milieu hospitalier, ou que ce soit simplement pour le bien-être de tout un chacun en plein hiver quand il fait pas bien soleil.
Bon. Assez fascinant, inspirant même tout ça, je dirais, Louis. Et peut-être pour terminer, des petites questions plus personnelles. T'es en affaires depuis longtemps. Tu as inspiré beaucoup de gens. Qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a un livre qui aurait marqué ton imaginaire plus qu'un autre?
Un livre qui m'a inspiré d'un point de vue professionnel? Oui. Il y en a deux qui m'ont inspiré. Je trouve ça intéressant que tu me poses la question. J'ai tardé à lire des livres du type professionnel. Je lisais plus des livres, de la littérature pour déconnecter. Si c'était à faire, j'aurais commencé avant. Mais il y a deux livres qui m'ont marqué, par contre. T'as Good to Great. Puis ça, c'est très inspirant parce que bon, c'est un contexte d'entreprise dans lequel le livre s'écrit, mais tu peux l'appliquer à plein de choses, hein. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence entre des compagnies qui étaient bonnes, mais qui sont jamais devenues great? Puis, moi, dans le fond, c'est tout le temps ça à quoi j'aspire, tu sais, puis avec mes employés, avec mon équipe ici. Tu sais, sur l'une, nous, on a les grandes aspirations. On a la capacité de le faire. Mais tu te rends compte que les compagnies qui l'ont réussi, il y a des communalités. Puis dans le cas du break, tu vas les voir où il y a une discipline, il y a une clarté pour tout le monde au niveau de qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va. Puis je te dirais que ça, même moi, dans ma façon de gérer, ça l'a influencé. Comment j'approche de la gestion de l'entreprise, comment je veux jouer mon rôle de leadership. Il y en a d'autres aussi, là, mais ça c'en est un. L'autre, c'est Measure What Matters. Ça aussi, c'est très intéressant. Good to Great, c'est vraiment dans l'organisationnel, le plus sociologique, je dirais. Là, ben, le Measure What Matters, ben, là, c'est pragmatique. Mais c'est bien fun d'avoir des belles idées puis des grandes affaires. Mais après ça, faut que tes structures tu sais pas ce que tu mesures pas, tu peux pas connaître ton progrès, puis ça aussi, c'est quand tu commences à le faire, ça amène une discipline qui est éclairante. Et puis, je dirais, pour l'instant, c'est mes deux grandes inspirations, cher Antoine.
Podcast, est-ce que tu en écoutes un?
Ben non.
Ah, pas de podcast.
J'aimerais ça te dire oui. J'ai pas. C'est une autre chose. Probablement comme les livres. Je devrais me mettre là-dessus. J'ai un des membres de mon équipe de direction aussi qui en écoute, puis qui régulièrement, tout à coup, il m'arrive, « Hey, j'ai entendu telle chose et telle chose. Je vais me mettre à ça. »
C'est quelque chose que... Résolution 2024.
voilà, résolution 2024.
Intéressant. Et bon, la routine du président, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais dans tes journées sur une semaine au complet? À quoi que ça ressemble?
Moi, j'aime ça être au bureau. Je dirais le matin, il y a des gens qui sont matinaux et tout ça. Moi, je vais être franc, je raconterai pas d'histoire. Je suis pas quelqu'un de matinal. C'est pas. Je suis plus comme un. Fait que le lever, il est là. J'ai une petite routine chez moi qui est très simple, là, mais tranquillement, je vais faire mon bon café. J'aime ça avoir mon journal papier. Oui. Écoute, on passe nos journées à l'écran, on est toujours à l'écran. Simplement lire quelques nouvelles, de savoir qu'est-ce qui se passe, d'être un peu à l'affût. C'est comme ça, je te dirais que je m'active tranquillement les neurones. J'aime après ça me rendre au bureau en transport en commun. J'aime ça, je m'en viens en métro. C'est comme, sentir plein de monde qui bouge.
Votre bureau est au centre-ville de Montréal?
Oui, notre bureau est dans le Vieux-Montréal. Je descends, je sors à Square Victoria. Je marche quelques fois. Puis, j'arrive au bureau, je m'installe, je vais me chercher mon café. J'aime passer à travers le bureau. On a une forte présence au bureau. J'aime ça créer un environnement que les gens ont envie d'être là. On vient de déménager justement pour ça, de deux années, plus d'espace, plus d'air. J'arrête de dire bonjour à un, à l'autre. Quand c'est lundi, qu'est-ce qui s'est passé, de prendre des nouvelles. Puis après ça, ben les choses s'enclenchent. Mais ça, c'est la routine. Donc, pendant la journée, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner tout le monde, m'assurer que personne ne bloque. Moi, je suis convaincu que les 50 personnes que j'ai, c'est les 50 meilleures. Je veux m'assurer qu'il n'y a rien qui les empêche de performer, d'avancer, qui les bloque. Je suis là pour unlocker, débarrer toutes ces choses-là. Puis en fin de journée, ben c'est là où je fais mon travail. Je vais faire mes suivis les dossiers que j'ai à monter, etc., etc. Grosso modo, ça ressemble à ça, une journée.
Mais écoute, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent sur le podcast qui me disent constamment qu'ils ont de la misère à travailler chez eux, qui vont au bureau. On dirait que c'est un point qui revient beaucoup. C'est intéressant. Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est totalement fascinant ce que vous faites. Ta carrière est très inspirante. Les aspirations que vous avez également chez Solum pour révolutionner littéralement la catégorie de l'éclairage. Tu m'as donné l'expression la dernière fois et je vais la partager avec notre audience. Vous êtes dans le SaaS businesses. Mais ce qu'on pourrait considérer le Sun as a services plus qu'un software as a services. Donc, clairement, une nouvelle catégorie qui émerge grâce à vous. Donc, félicitations pour tout ça. Si on veut en apprendre un peu plus sur vous et qu'on veut vous rejoindre, meilleur endroit,
ben écoutez, c'est vraiment pour comprendre plus dans le détail qu'est-ce qu'on fait sur notre site web, évidemment. C'est une belle bibliothèque d'informations. Bon, on met nos produits de l'avant. Il y a toute une section avec nos études de cas qui c'est bien vulgarisé, qui vont permettre à n'importe qui de pouvoir dire wow, comment Solum avec son éclairage permet d'améliorer la morphologie des plantes et tout ça. Puis après ça, ben LinkedIn et Instagram, il y a on met de l'avant beaucoup de choses où justement ça va permettre aux gens de voir on parle d'une technologie qui va finir transformer le monde agricole. Puis ben ça se passe ici au Québec.
Fantastique. Alors,
des fois, il y a des grandes innovations qui se sont passées ailleurs. Et il s'en passe ici aussi. Donc, écoute, ma mère me suit sur LinkedIn, elle trouve c'est comme ça que je suis capable de savoir qu'est-ce qui se passe avec toi.
On adore ça. Écoute, on mettra des liens dans les notes de l'épisode, donc les gens pourront y avoir accès. Louis Brun, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, je le répète, discussion totalement fascinante et inspirante. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance.